France Culture.
À voix nue, Alexandre Amiel.
Richard Malka, avocat.
Épisode 4, Richard Malka, auteur. Bonsoir Richard Malka.
Bonsoir.
Hier, nous sommes longuement revenus sur votre aventure aux côtés de Charlie Hebdo. Mais il est temps maintenant d'aborder un aspect moins connu de votre carrière, celui qui conjugue vos passions pour la bande dessinée et pour les mots. Entre autres, vous avez été le scénariste de plus d'une vingtaine de bandes dessinées, mais vous êtes aussi l'auteur de deux romans à ce jour, en plus de vos plaidoiries marquantes que vous avez publiées. Richard Malka, le métier d'avocat, ça vous suffisait pas? Il fallait écrire encore, écrire différemment?
En effet, quand j'ai commencé à maîtriser un peu mon métier d'avocat, après 5-6 ans, j'ai éprouvé le besoin d'exprimer autre chose, autrement. J'avais une culture bande dessinée importante. Moi, je me suis dit, bon, je vais écrire un roman, d'autres l'ont fait. Par contre, un avocat qui a écrit des bandes dessinées, ça, il n'y en a pas. Ça me convenait bien. Donc, je m'y suis mis. C'est compliqué parce que c'est une langue étrangère, en fait. Comment vous constituez votre page, combien de cases vous mettez par page, l'enchaînement des plans, des plans moyens, des gros plans, comment on constitue des bulles, c'est forcément très resserré, faut synthétiser son propos, il y a une scénarisation, c'est vraiment un langage. Et donc c'est technique, il y a un volet très technique. Et donc j'ai appris, j'ai acheté des livres tout seul, j'ai appris, je me suis lancé en faisant des erreurs monstrueuses. J'ai écrit un scénario de science-fiction, et puis je l'ai envoyé à la Terre entière. Ça m'a pris 7 ans, avec ce scénario sous le bras. La science-fiction était vraiment ma culture, alors là, depuis tout petit. Ça m'a pris 7 ans à taper aux portes. C'est compliqué parce qu'il faut trouver un dessinateur. Donc, j'ai envoyé à plein de dessinateurs. L'un d'entre eux a trouvé un intérêt à ce que j'avais écrit et il a eu du mérite parce que moi je ne l'aurais pas vu. Mais il y a des gens qui ont ce don-là de voir qu'il y a un petit quelque chose chez certains. Il m'a fait rencontrer un éditeur, Dominique Burdeau, qui était le directeur général des éditions Glénat. Je lui ai présenté mon scénario, mais ça au bout de plusieurs années. Et il m'a dit « Écoute, t'es avocat. Fais pas chier avec ta science-fiction, écris un scénario sur les avocats. » Il m'aurait dit d'écrire un scénario sur les cordeliers, je l'aurais écrit, j'avais tellement envie. Et donc, j'ai écrit un scénario sur les avocats, ça s'appelle L'Ordre de Cicéron. Et là, l'aventure a commencé. Et alors là, ça s'est débloqué incroyablement vite et bien. Glénat m'a trouvé un dessinateur de génie qui est une légende, un grand prix du festival d'Angoulême, Paul Gillon, qui avait déjà plus de 70 ans, qui est vraiment une des légendes de la bande dessinée. D'ailleurs, il prend le risque, Paul Gillon, de travailler avec un inconnu total dans le domaine. J'aimerais savoir qu'à son âge, je serais capable de cette générosité, parce que je me suis toujours dit, ça c'est fort de faire ça. Mais il a aimé le projet, et donc c'était un individu délicieux, encore une rencontre incroyable. Et ça a fonctionné, ça a marché. Dès le tome 1, ça a vraiment très très bien fonctionné. Il y a eu 3 tomes à la suite, c'est devenu un classique de la bande dessinée. J'en ai vendu plus de 200 000, je crois, aujourd'hui. Et l'aventure a commencé comme ça. Et ça a ouvert une décennie où j'ai pas arrêté d'écrire des BD, de publier. Je crois que j'en ai 27, j'en ai publié 27. Et ça a été une décennie de bonheur avec le festival d'Angoulême.
À quel point il y a des gens qui vous connaissaient comme auteur de bande dessinée et qui faisait pas le lien avec le Richard Malka avocat.
Absolument. C'était très drôle pour moi. Mais je me suis installé assez vite, après ces 7 années à galérer avec mes scénarios sous le bras, ce qui montre qu'il faut jamais, il faut persévérer.
Mais c'est toujours pareil.
Il faut être déterminé, en fait.
C'est du jour au lendemain, au bout de 7 ans.
C'est exactement ça. Et donc oui, ça a été une décennie merveilleuse, très rock'n'roll, où je faisais le tour des festivals et où effectivement des gens ne me connaissaient que qu'en tant que scénariste, parce que alors il y a eu Lord de Cicéron, puis après il y a eu une série policière financière, section financière, et puis après on a inventé avec Philippe Cohen et Riss un nouveau genre, la bande dessinée politique, une véritable enquête avec la face cachée de Sarkozy juste avant son élection à la présidence de la République. Alors là, ça a été un succès totalement inattendu et énorme. Et puis ensuite, j'ai scénarisé un album des Pieds Nickelés avec Luz, une fable animalière avec Tiluc. Et puis, pour finir, mon scénario de science-fiction auquel je tenais tant, qui s'appelle Segment, avec là encore une légende de ce domaine, Juan Jiménez, un immense dessinateur argentin. Et ma dernière en date, Idis, l'adaptation du roman de Robert Badinter qu'il m'a demandé d'adapter en bande dessinée, parce qu'il voulait que ce roman sur sa famille, sur sa grand-mère, soit assez accessible aux jeunes.
Mais en fait, bon, vous dites, vous cultiviez votre singularité. Pourtant, pour comprendre pourquoi vous êtes devenu cet auteur de bande dessinée, il faut voir le parcours de Richard Malka, lecteur. Parce que votre enfance, vous aviez une culture très forte d'auteurs de science-fiction de tout genre.
Alors oui, je me suis passionné pour ça. Un jour, on m'a dit, mais en fait, chez toi, ça remplace Dieu, la science-fiction. C'est peut-être là que je trouve, effectivement, mon au-delà, ma transcendance, mon plus grand que moi. Mais très tout petit, ça m'a passionné. Et en fait, mon grand frère avait compris que il y avait quelque chose, un levier qu'il pouvait utiliser pour me cultiver un peu. Et donc, en fait, le deal avec lui, c'était que quand j'avais lu un ouvrage classique, j'avais le droit de lire un ouvrage de science-fiction. Et donc, je dévorais les classiques pour avoir le droit de lire le plus de d'Asimov, de Van Vogt. Enfin, je les ai tous, et de Tolkien, évidemment. Là, on est dans de l'heroic fantasy. Mais j'ai tout lu. J'ai tout dévoré.
Donc, pour un Tolkien, vous lisiez quoi?
Ah, je lisais Hugo, Balzac, Colette, Saint-Exupéry, tout ce qui en allait à la bibliothèque municipale. J'adorais ces moments d'ailleurs où on se déplaçait. Ça n'existe plus vraiment en fait maintenant, y compris les bibliothèques. On a un abonnement internet et mais bon. En tout cas, moi, j'aimais aller à la bibliothèque avec soit mon frère, soit ma maman, qui était à Gambetta. Et voilà, elle me choisissait des livres. C'était que des classiques. Alors, j'ai pas de culture très contemporaine en littérature. Après, il y avait Stefan Zweig. Alors là, j'ai tout lu aussi. C'est un de mes auteurs.
Là, vous aviez pas besoin qu'on vous échange avec un livre de science-fiction.
Non. Alors, il devait y avoir les Jules Verne quand j'étais petit, qui étaient un peu entre deux, entre classique et science-fiction. Je sais pas dans quelle case mon frère me les mettait. Et je n'ai jamais arrêté d'avoir une vraie culture SF. Et je suis d'ailleurs rentré dans la bande dessinée par la science-fiction, parce qu'une fois que j'avais tout lu en littérature de science-fiction, je suis passé à l'Inca et à la BD de science-fiction.
Alors, vous nous disiez dans les épisodes précédents que vous étiez devenu avocat par hasard, mais finalement, faire une bande dessinée de science-fiction, c'était ça votre rêve de gosse?
Ah ouais, c'était un rêve, ouais. Oui, c'était vraiment un rêve. Je sais pas si c'était... Non, parce que je suis venu à la bande dessinée tard. Je suis venu vers à l'âge adulte en fait, enfin de jeune adulte à 18-20 ans. Non, j'aurais rêvé de faire un film de science-fiction. Mais là, je suis pas né dans le bon pays pour ça.
Ou dans la bonne époque.
Ouais, je suis pas sûr qu'en France on ait jamais fait de grands films de science-fiction.
Alors, vous nous disiez que c'était une façon de cultiver votre singularité que de commencer à écrire par la bande dessinée, mais peut-être aussi une autre interprétation. Est-ce que vous aviez un complexe de légitimité, en fait, comme auteur, et est-ce que ça vous a envisagé, dans un premier temps, d'envisager la carrière d'auteur de romans classiques ou... Et de rentrer par la bande dessinée, c'était comme une manière d'entrer dans la littérature par la petite porte ?
Peut-être que ça a joué, mais je crois pas, parce que le complexe d'imposture a toujours été là, mais ça m'a jamais empêché de faire ce que j'avais envie de faire. Il y avait un désir qui était plus fort. Non, je crois pas. Je crois par contre que j'en étais pas capable. J'avais pas assez d'amplitude, de vie, de sentiments, d'émotions éprouvées pour me lancer dans l'écriture d'un roman. C'était pas. Il y a un temps pour tout, nous dit l'Ancien Testament.
Vos bandes dessinées prennent souvent place dans le milieu judiciaire. Et elles sont donc très informées, en tout cas sur ce métier. Est-ce que ce choix vous permet de jouer avec ce matériel et de le découvrir autrement ?
Alors, c'est certain que, en fait, le conseil de mon éditeur était le bon. Quand on démarre dans un média, c'est pas mal d'y aller avec quelque chose que l'on maîtrise. Ça permet de se concentrer sur la forme, parce que c'est aussi un métier d'écrire un livre, d'écrire une bande dessinée. Évidemment, il y a une part de talent, mais il y a beaucoup de travail. Et ça, ça prend aussi en partie. Donc, il avait raison. Le fond, je le maîtrisais. Et ça intéresse, ça fascine, la matière judiciaire. Donc, j'avais déjà quand même un acquis sur lequel je pouvais me reposer pour apprendre le reste.
Vous dites Richard Malka, et c'est un autre point commun avec votre personnage d'avocat.
C'est ce que j'ai fait en roman aussi, d'ailleurs. Roman et judiciaire.
On va y venir. Mais vous dites que la salle d'audience, c'est le seul endroit où vous vous laissez aller à votre violence. Parce que c'est un cadre qui est apte à le recevoir.
J'ai dit ça, moi.
Oui, je suis là pour ça. Est-ce que l'écriture de roman en est un autre ? Mais sauf que c'est vous qui... De roman ou de bande dessinée, sauf que c'est vous qui fixez les règles, cette fois.
Alors, non, pas mal. C'est vrai, c'est vrai que dans une salle d'audience, j'exprime ce que je n'exprime jamais ailleurs. Une certaine violence, parfois, effectivement. Une certaine agressivité que je ne m'autorise jamais, par ailleurs. Dans la littérature, c'est autre chose que j'exprime, de cacher, éventuellement. C'est plutôt mes déséquilibres.
Des passions coupables ?
Oui. Les vices, ma part d'obscurité.
Et vous la revendiquez, quoi, c'est cathartique ?
Non, je la revendique pas, je la revendique pas, je l'exprime. Dans le terme revendiquer, il y a une fierté. C'est pas le cas, mais c'est une lucidité.
Et ben alors, il y a un endroit où ça s'exprime clairement, c'est dans vos romans. Il vous aura fallu près de 15 ans, Richard Malka, avant de vous attaquer au genre du roman. Avec Tyrannie, un thriller dystopique, on peut dire très orwellien, quoi. On y retrouve aussi, encore une fois, votre pratique d'avocat. Il y est question de totalitarisme, mais aussi de tout ce qui le favorise et le maintient. La lâcheté, le renoncement, la faiblesse, on retrouve un peu vos thèmes.
Mais on les retrouve partout, de la vraie vie. Même dans mes bandes dessinées, en fait.
Est-ce que vous avez attendu pour l'écrire, ou bien ce roman s'est imposé à ce moment-là ?
J'ai pas attendu. Je l'ai écrit quand j'étais capable de l'écrire. Vraiment.
Capable techniquement ou capable?
Non, pas techniquement. Parce que pour le coup, la BD, c'est très technique. C'est un langage, vraiment une langue étrangère. Un roman, non. C'est l'espace de liberté. Il y a moins de règles. Donc non, mais j'avais vécu suffisamment de choses, d'amour, de pertes, d'épreuves, pour pouvoir écrire, pour avoir quelque chose à dire dans un roman. Avant, j'en aurais pas été capable. J'avais pas ouvert assez de portes à l'intérieur de moi. C'était trop. Oui, j'étais fermé à plein d'endroits. Il faut être libre. Il faut être suffisamment libre pour écrire. Donc, c'est venu quand ça devait. Et C'est-à-dire en 2014. J'ai commencé à l'écrire en 2014. Il y a eu une grosse interruption avec le 7 janvier et j'ai pas pu écrire pendant des mois et des mois, pas une ligne. Donc mon éditeur Grasset est évidemment très compréhensif. Et puis quand je m'y suis remis à l'écriture, parce qu'à un moment j'ai vraiment beaucoup écrit pendant 15 ans. Et il n'arrivait pas que j'ai rien à écrire. Et là, pendant 6 mois, je ne pouvais plus rien faire. Et quand je me suis remis à écrire, ma plume était si sombre qu'en fait, ça a donné un autre roman, qui est devenu mon deuxième roman, Le voleur d'amour, un roman très gothique, très, très sombre. Et il a fallu que je finisse ce roman-là pour pouvoir revenir au premier.
Alors, on va en parler.
J'avais expulsé... Ténèbres.
On va parler du voleur d'amour après, mais qu'est-ce que vous vouliez dire, qu'est-ce que vous vouliez raconter dans ce premier roman, dans Tyrannie ? Et pourquoi vous aviez besoin de passer par la fiction et par ce genre-là plutôt qu'un essai ou un récit ?
En fait, je me suis pas du tout posé les questions comme ça. J'ai commencé à écrire sans savoir où j'allais, sans avoir de plan, sans en ayant une histoire que j'ai arrêté de suivre au bout de 2 pages, et une ligne venait après l'autre. Vraiment. Donc, c'est mon inconscient qui m'a guidé au cours de ces 300 pages. J'avais pas de plan. J'avais rien à... Je ne me disais pas, tiens, j'ai quelque chose à dire. J'avais des choses à dire, et je les ai découvertes en les écrivant.
Et qu'est-ce que vous avez découvert?
Parfois, on se fait peur en écrivant. On découvre des... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça... Je fais... Je suis pas... C'est comme... Je fais peu d'introspective. J'aime pas trop ça.
Oui, mais vous avez compris que je vais pas vous lâcher.
Mais par contre, en écrivant, là, je vois au fil des lignes un personnage dessiné qui est une part de moi. Qui parfois effectivement fout les jetons. Donc voilà, on découvre une part de folie, de paranoïa, de peur, et puis de choses malsaines aussi. Mon tyran dans ce livre qui sombre dans la folie la plus totale, je m'y suis attaché terriblement. En fait, ça m'a même posé un problème dans le livre, parce qu'à un moment, il prend tellement d'importance qu'il devient plus important que le héros. Et ça, c'est pas possible. Donc j'ai dû me discipliner pour que ce personnage très inquiétant ne devienne pas très sympathique. Et je crois qu'il le devient quand même un peu.
Un petit peu, dans son genre. Mais je reviens sur ce que vous disiez, la rédaction de votre deuxième roman, Le voleur d'amour, donc qui est paru chez Grasset en 2021, vous l'avez dit, a interrompu celle du premier, parce que vous avez besoin d'évacuer votre noirceur après les attentats de 2015. Est-ce que, avant même de parler de ce roman, est-ce que le processus d'écriture a été une sorte de purge émotionnelle, en fait?
Oui.
Pour pouvoir continuer à votre travail rationnel sans être parasité.
Oui. Oui, parce que, alors, chacun a fait comme il pouvait. Beaucoup ont travaillé avec des psys. Moi, c'est pas mon truc. J'y arrive pas.
Ça a été la plume, votre psy?
Ouais, je pense. En tout cas, ça m'a aidé. Ouais, vraiment. C'est passé par là. Par mes personnages imaginaires, mais je fonctionne comme ça depuis l'enfance, je pense.
Ça a toujours été un refuge, l'imaginaire.
Ah oui, oui, je vis, on me le reproche un peu dans ma vie personnelle. Mais oui, j'y passe pas mal de temps.
Alors donc, ce refuge imaginaire, c'est quand même le personnage d'Adrian Van Gogh, sorte de vampire qui doit son immortalité au fait de soutirer l'amour de ses victimes. Est-ce que c'est une Ça raconte une forme
nourrit,
une forme de culpabilité du survivant.
Non, je pense pas. Je sais pas. C'est en fait quand on écrit, c'est hyper intéressant d'avoir les retours des personnes qui vous entourent, de vos éditeurs et parfois même des lecteurs et des critiques qui voient des choses dans vos livres que vous ne voyez pas vous-même. Et parfois, j'apprends sur moi par ces retours-là. Donc peut-être que vous avez raison, je crois pas. Non, c'est peut-être une culpabilité des mauvaises actions que l'on commet tous dans nos vies amoureuses respectives. Probablement, c'est une crainte de moi-même, une méfiance à l'égard de moi-même, parce que c'est important de cultiver ça aussi quand on veut rester dans le doute, dans une certaine vérité de soi-même, dans une certaine connaissance de soi-même. Je me méfie de Dieu et de moi.
Mais est-ce que c'est pas aussi, dans ce roman, l'occasion de répondre à un besoin de traiter ce sujet plus intime ?
Ah si, c'est sûr.
Et aussi d'employer le jeu.
C'est une manière... Je vous ai dit que je partageais avec mon père une certaine idée de la pudeur. Mais à un moment, il faut que ça sorte quand même. Et comme je ne peux pas, je trouve ça vulgaire et obscène et de parler de soi-même, je le fais au travers de mes personnages, évidemment. Donc oui. Mais après, en romançant, en inventant, avec une part d'imaginaire, et puis à chacun de prendre ce qu'il veut, d'y voir ce qu'il veut. Mes personnages ne sont pas totalement moi non plus, mais chacun, qu'il soit homme ou femme, ont une part de moi.
En tout cas, écrire, c'est une autre manière de cultiver vos obsessions.
Les cultiver, dites-vous.
Là, le mot est choisi.
Oui, je vois bien. C'est possible. C'est possible. Peut-être que c'est une manière de les présenter au monde en disant, mais regardez, elles sont pas si... faut les aimer quand même.
En plus de ces romans, en plus de ces bandes dessinées, vous avez édité...
De vérifier qu'on les aime quand même.
J'étais déjà parti ailleurs. Donc en plus de ces
romans, j'ai besoin d'un peu de temps.
Mais c'est bien, c'est bien. En plus de ces romans, en plus des bandes dessinées, vous avez publié vos principales plaidoiries, à savoir évidemment la plaidoirie des attentats de Charlie,
le droit d'emmerder Dieu,
et plus récemment une plaidoirie où vous avez défendu Raphaël Enthoven contre la France insoumise. Et sur le caractère antisémite de certaines déclarations de la France insoumise. Pourquoi ce besoin de publier ces plaidoiries ?
Alors, l'aventure commence avant, avec la publication de ma plaidoirie et de celle de Georges Kejman, de 2007, sur le procès des caricatures de Mahomet. Et alors là, l'idée ne vient pas du tout de nous, elle vient de Grasset, de Christophe Bataille, qui nous dit, mais ces plaidoiries, vous les avez écrites, c'est patrimonial, il faut qu'elles soient publiées, on en vendra 4, mais tant pis, il faut que ça existe. À tel point que on n'avait même pas d'avance sur droit d'auteur, ce qui n'existe pas normalement. Donc c'était vraiment on veut qu'il y ait une trace. Et ça venait de Grasset. Et puis donc ça a été publié avec une préface d'Anastasia Colosimo.
Ah oui.
qui était spécialiste du blasphème à l'époque avant de devenir conseillère d'Emmanuel Macron et ça a rencontré un petit succès. Et puis après assez naturellement quand j'ai plaidé pour les attentats il y avait déjà un précédent de publication, et là encore, chez Grasset, on s'est dit qu'il fallait publier ça, mais c'est un ovni, une plaidoirie. Je crois qu'ils en avaient prévu 3000, 5000 exemplaires, parce que quand même, le précédent avait un tout petit peu marché. Et puis, ça a pris c'est devenu un peu fou. Je sais pas, aujourd'hui, je pense que on en a vendu 150 000. Donc j'étais heureux de ça. C'est pas égocentrique pour le coup. C'est vraiment, c'est un hommage à Charlie.
C'est ça.
Et c'est une plaidoirie pour la liberté d'expression, pour expliquer l'histoire de Charlie, l'histoire de la liberté d'expression dans ce pays. Là, pourquoi c'est si important de ne pas abandonner le droit au blasphème. Donc là, j'étais évidemment, j'ai tenu à ce titre, par ailleurs. C'est une vraie satisfaction. J'aurais fait ça. J'aurais expliqué, peut-être convaincu. En fait, j'essaie toujours de faire la même chose. J'essaie de, au travers de mes plaidoiries, de mes livres, de mes romans, je raconte des histoires pour convaincre.
Il y a un livre qui, moi, me plaît particulièrement, que vous avez sorti en 2025, c'est « Après Dieu », où vous rentrez dans une collection, un exercice contraint, à savoir passer une nuit dans un musée, et vous avez choisi le Panthéon, et vous avez choisi d'entamer un dialogue avec Voltaire. Alors, encore une fois, on a appelé cette série, s'interroger sur cette religion de la liberté qui est la vôtre. Est-ce que ça vous a plu, cet exercice de dialoguer avec Voltaire pendant toute une nuit ?
Ah, mais j'ai adoré ça. C'est inoubliable. Vous arrivez, je suis arrivé au Panthéon à 20h, on fait la séance photo, on vous explique un peu comment ça se passe, et puis à 21h, on ferme les portes, et vous êtes tout seul dans ce lieu incroyable jusqu'à 7h du matin. Et vous pouvez courir, hurler, passer du haut en bas, du bas en haut, de la crypte de Voltaire à Rousseau, à Condorcet. C'est à Manoukian, c'était génial. J'ai passé une nuit de rêve. Alors, je suis sorti de là très malade parce qu'il fait un froid de gueux. Mais oui, cette conversation avec Voltaire sur Dieu, encore sur Dieu, c'est vraiment mon principal sujet, celui-là. Ça m'a permis d'aller au bout de ce que j'avais à dire sur le sujet, d'approfondir, de prendre de nouveaux chemins, et puis de relire tout Voltaire. Et ça, c'est un bonheur parce qu'en fait, il y a c'est ce que je dis dans le livre, il y a une espèce de filiation entre Voltaire, Charlie et même Georges Kegeman. Il y a une irrévérence joyeuse. Parfois méchante, mais brillante. Et il y a un amour de la liberté qui mène parfois à la mort, mais qui est indomptable.
Ça aurait pu être aussi le titre de cette série. Donc, après cette plongée dans votre métier d'auteur, nous évoquerons demain vos combats, vos convictions, les idées fortes qui unifient votre carrière, sans pour autant que celle-ci soit exempte de tension. Est-ce qu'il y a une doctrine derrière votre irrévérence ? Est-ce que le refus des croyances n'est pas une croyance elle-même ? C'est ce dont on parlera demain, dans le dernier épisode de cette série à voix nue. Merci Richard Malka.
Merci à vous.
À demain. À suivre épisode 5. Et vous, Richard Malka, en quoi croyez-vous ? C'était À Voix Nue, réalisation Charlotte Roux, prise de son Maël Larfassor, chargée de programme Daphné Abgral, une série d'Alexandra Miel disponible sur franceculture.fr et l'application Radio France.